décortiquer cette crise rwando-congolaise, Jean-Pierre Carréguillier, professeur au Dickinson College, université située à Carlisle, dans l'État américain de Pennsylvanie. Il est également directeur du centre pluridisciplinaire sur le génocide et auteur de plusieurs ouvrages. Il nous rejoint via Skype de Boston. Le journaliste Louis Magloire Kemayou est en direct de Lomé au Togo. Il est l'ancien président fondateur de l'association de la presse panafricaine et aujourd'hui il est à la tête du club de l'information africaine. Et notre troisième participant, l'ancien diplomate américain Herman Cohen, qui a notamment été secrétaire d'État adjoint chargé de l'Afrique. Il se trouve ici même à Washington et il nous rejoint par le truchement de Skype également. Jean-Pierre Carréguillier, je commence par vous. Comment expliquez-vous ce regain de tension entre la RD Congo et son voisin le Rwanda?
Oui, bonjour d'abord. Je crois qu'il y a plusieurs récits, plusieurs causes, plusieurs origines et peut-être plusieurs récits qui s'entrecroisent si on veut analyser, approcher le conflit actuel. J'aimerais d'abord commencer par ce groupe M23 et donc, qui a déclenché ou donc, qui est impliqué dans le conflit. Donc en 2013, il y avait deux fractions des M23 et donc qui s'étaient opposées entre elles, et une des fractions avait fui au Rwanda, et au moment où, disons, quand ils avaient été défaits par défaits par les Nations Unies, les forces des Nations Unies, et une autre fraction, celle de Makenga, avait fui en Ouganda, et c'est donc cette fraction qui était en Ouganda qui est en train de se battre actuellement au Congo. Alors, parlant des origines, comme je disais au début, il y a plusieurs récits. Donc, une des causes possibles, donc, c'est d'abord le conflit entre les deux États, qu'on ne peut pas nier, entre le Rwanda et le Congo. Et je crois savoir que l'origine, c'est surtout en 1994, donc à la fin du génocide, où les forces qui avaient commis le génocide avaient fui au Congo, et avec la bénédiction, évidemment, de la France à l'époque, et puis du gouvernement zaïrois à l'époque. Et vous rappellerez que c'est grâce, d'ailleurs, à cette opération, la réception des forces, j'ai terminé donc ces forces et, qui avaient commis le génocide, que ça avait permis à Mobutu d'être réhabilité et d'être accepté. Donc ça, ça peut être considéré comme une des causes si on regarde du point de vue des deux États. Et évidemment, et ces forces génocidaires qui étaient au Congo avaient continué évidemment à attaquer le Rwanda pendant plusieurs années et sont encore au Congo. Évidemment, par rapport aux deux États, et une autre raison, ce sont des soupçons de part et d'autre, des soutiens, c'est-à-dire le Congo qui estime que le Rwanda soutient des forces rebelles congolaises et le Rwanda qui estime que le Congo soutient aussi des forces. Donc ça, c'est sur le plan. Mais j'estime qu'on ne devrait pas voir le conflit uniquement sur le plan des deux États, parce que le conflit a beaucoup de dimensions.
Oui, donc on va y revenir certainement. Lui, Kemayou, évidemment, le M23 est en ligne de mire. Selon vous, brièvement, que veulent ces rebelles du M23?
Je pense que le M23 est un mouvement aujourd'hui qui, même s'il a, même si son origine n'est pas contestable, c'est quand même un démembrement de l'AFDL, l'Alliance des Forces pour la Libération du Congo, et que tous les partenaires qui se sont réunis autour de cette force-là pour chasser Mobutu sont finalement devenus les pères de ce M23 aujourd'hui, qui a été pratiquement défait par les autorités, mais qui n'est pas complètement mort. Et vu qu'il a signé des accords, c'est l'un des rares mouvements sur les plus de 120 qui pullulent dans cette région, qui a signé un accord avec le gouvernement de la RD Congo et qui demande que ces accords soient respectés. De leur point de vue, il ne l'est pas suffisamment. Et vu qu'il y a eu de nouveaux accords qui ont été signés avec l'entrée de la RDC dans la communauté des pays de l'Afrique de l'Est, c'est un centre de gravité qui est en train de changer. On n'est plus en Afrique centrale. Le tuteur, ce n'est plus l'Angola. c'est finalement le Kenya qui reprend la main. Et question de montrer qu'on est bien ancré dans cette résolution des conflits qui devrait tenir compte des antécédents qu'on avait et de tous les partenaires qui avaient été impliqués dans les décisions. Je pense que ce 10e anniversaire qui approche était une occasion pour le M23 de se rappeler au bon souvenir de tout le monde et de rappeler aussi à la communauté des pays d'Afrique de l'Est qu'il y a des discussions qui ont été menées avant et qu'il serait bon de partir sur les bases de ces discussions-là. L'Angola revient dans les discussions. Je ne sais pas si cela changera quelque chose par rapport à l'attitude belliqueuse du M23, mais une chose est certaine, c'est que je crois que c'est une manière pour eux de montrer qu'ils ne sont pas encore morts et enterrés.
En tout cas, la partie orientale de la RD Congo, les régions du Kivu et de l'Ituri notamment, est en proie aux violences depuis plus de 25 ans en raison de la présence de nombreux groupes armés locaux et étrangers. Herman Cohen, êtes-vous étonné par cette nouvelle montée des tensions entre Kinshasa et Kigali en lien avec l'Est congolais?
Non, pas du tout. Une chose qui n'est pas encore mentionnée dans cette discussion, c'est l'abondance de minerais dans cette région. C'est plein d'or, les mines de Kilimoto et de coltan. C'est ça la vraie raison pour la violence. Il y a des pays à l'est du Congo qui désirent posséder ces minerais. Et bien sûr, le Congo ne veut pas autoriser les gens de prendre ces minerais. Et donc, c'est une question d'argent. Et je trouve qu'il y a une solution possible. C'est un accord avec entre le Congo et les pays voisins. Si vous voulez nos minerais, il faut établir des sociétés, il faut faire des mines, il faut exploiter et il faut payer des royalties. Autrement, nous allons arrêter toute activité. C'est ça la raison pour la violence.
Et voici ce que le président Tshisekedi a dit à propos du M23. Alors si aujourd'hui ces rebelles ont repris du poil de la bête, ça veut dire qu'ils sont partis de quelque part, ont été armés par quelque part, dit-il. Jean-Pierre Carré-Guélier, un petit commentaire rapide sur cette déclaration.
Oui, donc comme je l'ai dit au début, le groupe qui se bat actuellement était en Ouganda, donc dirigé par Makenga, le colonel Makenga, et qui n'est pas proche du Rwanda, ça on devrait le dire. Il n'est pas du tout proche du Rwanda, et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs en 2013, il n'a pas choisi le Rwanda, il avait choisi l'Ouganda, et c'est là qu'il s'était installé. Donc voilà ce que je pourrais dire. Oui.
Pour sa part, Kigali reproche Kinshasa de protéger les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda, un groupe rebelle rwandais installé dans l'est du Congo. Le gouvernement congolais affirme au contraire combattre les FDLR. Lui, Kemayu, quelle lecture faites-vous de ces accusations du Rwanda?
Non, je crois qu'il y a, une nécessité de comprendre, ne serait-ce qu'à la lumière des crises que nous sommes en train de vivre actuellement, et je pense très, très fortement à la guerre entre l'Ukraine et la Russie, les relations de voisinage ne sont jamais faciles, surtout sur un continent africain où les frontières n'ont pas toujours obéi, le découpage des frontières n'a pas toujours obéi à des logiques sociologiques et de regroupement humain faciles à comprendre. Donc il faudrait pas qu'il y ait ce type de rejet où on se renvoie la balle, où on joue au ping-pong au bout du compte avec les responsabilités des uns et des autres. Une chose est certaine, il y a eu une première situation dans l'est de la RDC, je veux dire au nord Kivu comme au sud, où on a traité les gens de Banyamulenge. Ce sont des Congolais qui vivaient dans cette région et qu'on ne considérait pas comme suffisamment intégrés au pays, comme suffisamment citoyens du pays. Et donc, ils ont vécu pendant très très longtemps avec ce rejet. C'est un problème qu'il faut résoudre. Puis, il y a eu la question du génocide des Tutsis au Rwanda qui est venu rajouter une couche à cela. Et donc, tout ça a contribué à créer une situation qui est aujourd'hui inextricable. Et je crois qu'il ne faudrait pas juste se contenter de dire les armes viennent d'un côté ou bien le soutien vient d'un côté, mais trouver un moyen véritablement de régler les problèmes des minorités au sein de nos républiques, notamment en RDC, en Ouganda et dans les autres pays, et trouver le moyen non pas de se rejeter la balle tout le temps. Il y a une force des Nations Unies qui est, je crois, la mission la plus importante que les Nations Unies aient jamais déployée dans le monde et qui n'obtient pas de résultats. Nous avons également des gouvernements, notamment celui de RDC, qui a décidé de pacifier l'Est de la RDC, et à côté il y a des voisins qui ont également des inquiétudes, notamment au Rwanda, où on estime qu'il y a beaucoup de génocidaires qui se sont réfugiés là-bas et que par moments ils peuvent attaquer le Rwanda. Et donc par moments il y a aussi, même si ce n'est pas avoué, il y a une nécessité pour le Rwanda de bloquer ces attaques-là en utilisant les moyens militaires qui sont sur place. Encore une fois, les AFDL étaient là avec Laurent Désiré Kabila au moment où le président Mobutu a été renversé, et je ne pense pas que les forces qui ont été chassées dans ces régions-là ont été remplacées depuis. Donc cette zone de fragilité ajoutée à tout ce qui s'y prépare depuis, notamment la question des minerais, fait qu'aujourd'hui c'est devenu inexplicable et qu'il faut mieux que ce renvoi de balles, mais une réelle volonté politique des différents pays concernés pour résoudre définitivement le problème.
Oui. Une information qui est tombée aujourd'hui, jeudi 9 juin, l'armée congolaise accuse le Rwanda d'avoir déployé 500 de ses soldats dans l'est de la RDC en soutien aux rebelles du M23. Nouvelles accusations qualifiées ce jeudi de sans fondement par Kigali. Et maintenant, deux de vos nombreux commentaires Facebook, Mamadou Fanilou Sek, cette tension devrait être étouffée dans l'œuf avant que l'irréparable ne se produise. Le président Tshisekedi ferait mieux de rééquiper les FARDC en les dotant de matériel militaire de dernière génération afin de sécuriser son territoire. La RDC est victime des richesses naturelles de son sous-sol et de l'absence de forces de défense et de sécurité capables de sécuriser le territoire congolais. Valérie Toili de Goma, RDC, Washington, connaît tout et propose des solutions chimériques. Le Congo doit se prendre en charge. Et voilà pour ces deux commentaires. S'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. La suite du Washington Forum, ce sera après cette courte pause.
Se raconte et se rencontre. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables.
Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures.
Et les bons petits plats.
Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités.
L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines.
Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine.
Vous et nous, c'est nous,
c'est vous et nous.
Nous braquons les projecteurs sur le regain de tension entre le Rwanda et la RDC. La RDC, où Philippe, le roi des Belges, a entamé mardi dernier sa première tournée officielle, un périple de 6 jours avec pour objectif de relancer le partenariat avec le président Félix Tshisekedi et de poursuivre le travail de mémoire sur la période coloniale encore omniprésente dans les esprits. Autre visite prévue, celle du pape François, attendu en RD Congo le 2 juillet prochain. Et nous retrouvons nos invités, Jean-Pierre Carré-Guélier, professeur au Dickinson College, situé à Carlisle, en Pennsylvanie. Il est également directeur du Centre pluridisciplinaire sur le génocide et auteur de plusieurs ouvrages sur les questions politiques notamment. Il est avec nous de Boston. Lui, Magloire Kemayou, et lui en direct de Lomé, la capitale togolaise. Il est journaliste et dirige le Club de l'information africaine et prenant également part à cette émission. démission, Herman Cohen, ancien secrétaire d'État adjoint américain chargé de l'Afrique. Il nous rejoint de Washington via Skype. Pour l'heure, l'apaisement n'est pas à l'ordre du jour, vu les dernières déclarations faites par les deux voisins d'Afrique des Grands Lacs. Le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi, affirme n'avoir aucun doute sur le soutien du Rwanda à la rébellion M23, venue agresser son pays, dit-il. Quant au ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Biruta, il indique que son pays ripostera en cas d'attaque sur son territoire à partir de la République démocratique du Congo. Pour le moment, Jean-Pierre Karyégué, il s'agit d'une guerre verbale, mais êtes-vous d'avis que le dialogue est urgent pour éviter le pire, c'est-à-dire un affrontement armé?
Oui, oui, parce que vous parlez du dialogue, je crois que s'il y a un affrontement et armé, et les deux pays vont perdre certainement. Quand je dis vont perdre, c'est pour dire que cet affrontement n'est pas souhaité. Vont perdre dans le sens parce que ça va laisser des séquelles dans les populations congolaises et comme dans les populations rwandaises. Cependant, j'aimerais revenir sur un point très important et je crois que qui a déjà été souligné. On ne doit pas voir le conflit uniquement sur le plan du Rwanda et du Congo. Il y a aussi le statut des populations rwandophones, et ça a déjà été souligné ici par Magloire, donc le statut des populations rwandophones, et qui sont c'est une population très vulnérable, et cela peut être aussi un enjeu du conflit très important. Juste un élément, dans les années 1990, quand il y avait la conférence nationale souveraine au Congo, on avait exclu tous les rwandophones, commençant d'abord par les populations tutsi et puis hutu. Donc tous étaient exclus par des hommes politiques, par la société civile de cette conférence nationale souveraine. Ça, c'est juste un exemple. Et donc, il y a tout ce débat sur la nationalité. Nous savons où est-ce que ça a amené la Côte d'Ivoire ou d'autres pays africains, donc sur qui est congolais et qui ne l'est pas, et surtout qui vise pour la plupart, c'est partie de la population. Et donc, je crois que ça, c'est un point très important. Et il suffit de lire actuellement, par exemple, sur les médias sociaux, les discours des hommes politiques, opposition ou ceux qui sont au pouvoir. Donc, c'est comme si cette question, le statut de cette population rwandophone, est devenu un élément catalyseur au niveau de la République démocratique du Congo. Et ça, je crois que c'est extrêmement dangereux. Oui, le dialogue est très important et je crois qu'on ne devrait pas souhaiter une guerre. D'ailleurs, en tant qu'Africain, pas seulement étant un membre de cette région, je crois qu'une guerre devrait être évitée à tout prix et surtout des discours belliqueux.
Oui, effectivement, tout le monde veut la paix. Le chef de l'État angolais, João Lourenço, joue les médiateurs. Il a eu récemment des entretiens avec ses homologues congolais et rwandais. D'après Luanda, Félix Tshisekedi et Paul Kagame sont parvenus à un accord pour se rencontrer en face à face dans la capitale angolaise, à une date qui n'est pas encore connue. Lui, comme Ayou, ce tête à tête, va-t-il vraiment avoir lieu? Cette médiation va-t-elle porter ses fruits?
Oui, il faut le souhaiter. D'abord, il faut le souhaiter parce qu'il n'y a pas d'autre issue que d'avoir cette rencontre entre les deux chefs d'État, puisque le Rwanda est revenu dans le jeu à travers ces deux soldats qui ont été capturés et présentés à la presse, ainsi qu'à l'opinion. Donc il est important que les deux hommes se retrouvent, surtout qu'il y a eu quand même eu, entre la période où Laurent Désiré Kabila est mort et l'élection de Tshisekedi, il y a eu une période où les relations étaient très mauvaises entre les deux pays, et il y avait un début de normalisation avec l'élection de Félix Tshisekedi et puis son implication dans la sécurisation de la partie est de la RDC. Et quand vient cette situation, ça marque un certain coup d'arrêt dans cette normalisation qui était en cours. Rappelons qu'au niveau des populations, les frontières n'ont jamais été fermées entre les deux pays. Et donc si au niveau politique, les leaders aussi y mettent un peu du leur, beaucoup plus qu'un peu du leur, je pense que cela portera ses fruits. C'est pour toutes ces raisons que j'estime qu'il faudrait que l'on soit optimiste et qu'il y a de bonnes raisons de l'être par rapport à cette rencontre entre les deux chefs d'État.
Oui. En même temps, l'ONU, l'Union africaine évidemment, de même que Washington, plaide pour une solution diplomatique. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a récemment accueilli dans la capitale américaine Christophe Lutundula, le ministre congolais des Affaires étrangères. Herman Cohen, que peuvent faire les États-Unis pour mettre un terme à la tension entre la RDC et le Rwanda, ou du moins la réduire?
Je crois que Washington peut proposer une solution, surtout sur la question des minorités. À mon avis, j'insiste, c'est ça au centre du problème. Vous savez, au Rwanda, il y a une raffinerie de coltan, un minéral très important pour les téléphones portables et autre chose. Mais au Rwanda, il n'y a pas de coltan. Il faut qu'ils trouvent le coltan au Congo. Et c'est pourquoi ils ont des milices là-dedans pour contrôler les mines artisanales de coltan. L'Amérique peut trouver une solution. Faire un accord entre le Congo et le Rwanda pour le coltan. Le Rwanda va l'acheter, va établir une société et les royalties vont vers le gouvernement congolais. C'est une question très simple, mais il faut la volonté. Une autre chose, on a parlé tout à l'heure des Rwanda fonds au Congo. C'est mon expérience que les Rwanda fonds du Congo sont 100% loyaux au Congo et pas à Rwanda. Mm-hmm. Et quand les Rwanda fonds du Congo vont au Rwanda, ils parlent Lingala. Donc, ils sont tout à fait des Congolais et pas des Rwandais.
Deux autres commentaires à Facebook, et je dois dire qu'il y en a une tonne sur la page Facebook de VOA Afrique. Mahamana Djakite de Bamako, Mali, de par le brassage des peuples, des cultures, des langues, et de par le bon voisinage, les deux pays ont intérêt à se parler pour l'intérêt de tous avant qu'il ne soit trop tard. L'Afrique a besoin de paix. Et Joseph Mukendi, Belangana de Johannesburg, Afrique du Sud, la communauté internationale ne doit pas seulement constater, mais sanctionner le pays agresseur. Et voilà, et il y a une autre question que je voulais poser. Les chefs des armées des États de la communauté d'Afrique de l'Est ont clôturé mardi dernier à Goma une réunion sur la mise en place d'une force régionale pour combattre les groupes armés actifs dans l'Est de la RD Congo. Jean-Pierre Karegeye, cette force régionale verra-t-elle le jour et pourrait-elle éradiquer tous ces groupes qui n'arrêtent pas de miner la partie Est de la RDC?
Oui, et il faut que cette force existe et rende des services, évidemment, comme tout le monde le dit. La question de la souveraineté, la question de la paix est d'abord un problème congolais. Oui. Donc, c'est le Congo qui devrait être capable d'assurer la paix de son peuple.
D'accord, je vais faire un petit tour de table rapide avant de clore l'émission. Alors, Kigali et Kinshasa a commencé pourtant à connaître un dégel de leur relation tendue après l'arrivée de Félix Tshisekedi à la tête de la RDC en 2019. Le M23 et les FDLR sont-ils les deux seules raisons ayant ravivé ces tensions bilatérales? Ludovic Maillot, en deux mots, si vous pouvez.
Non, je crois que ce n'est pas la seule raison. Il y a l'enjeu politique qui est tout aussi important. Et je crois qu'il ne faut pas non plus négliger l'enjeu économique, parce que quand on voit ce que les minerais coûtent sur les diamants, on a fait l'initiative par rapport aux diamants récents pour tracer l'origine, mais sur les autres minerais, c'est très, très important de comprendre que c'est difficile à tracer, mais qu'il y a un enjeu politique pour le président Tshisekedi de se relancer dans la guerre, dans cette escalade verbale. Oui. Et puis, il y a également l'enjeu l'enjeu économique est celui des ressources aujourd'hui.
Absolument, on en a beaucoup parlé, il nous reste quelques poignées de secondes. Herman Cohen, très rapidement, que fait la communauté internationale pour aider les Congolais à ramener la paix dans l'Est de leur pays? Car des commentateurs l'ont déjà dit, en prenant le cas de l'Ukraine, de l'aide, il peut y en avoir. En deux mots, si vous pouvez.
Mais je ne vois pas que le gouvernement, que la communauté internationale fait grand-chose au Congo. Il n'y a pas de un effort diplomatique que je sache. Donc il faut que l'initiative commence entre Washington et Rwanda et entre la Belgique et Rwanda-Congo. Mais à mon avis, rien ne se passe maintenant.
Et voilà, point final à ce Washington Forum. Un grand merci à nos trois invités, Herman Cohen, Louis Magloire Kemayou et Jean-Pierre Karegeye. Et bien évidemment, merci à vous, chers amis fidèles de la VOA. Merci de nous avoir accueillis chez vous cette semaine. Vous retrouverez mon ami et collègue Abdourahman Dia dès jeudi prochain. C'était Jacques Aristide de Washington. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Take care. Merci.